Chapitre 25. Édouard Manet. Less is more. De retour chez le docteur Van Horst pour une deuxième séance d'hypnothérapie, Mona récapitula pour le médecin la teneur de sa première expérience. Sans avoir été désagréable, cette plongée dans un état second l'avait quelque peu surprise, et juste avant d'ouvrir les yeux, l'enfant avait eu le sentiment d'une présence incroyablement tendre, apaisante, mais triste. Van Horst lui demanda si elle avait pu mettre un nom sur celle-ci. Mona voulut répondre, mais la simple désignation de la personne à laquelle elle pensait, à l'instant où elle crut pouvoir la formuler, fit gonfler en elle une inexplicable boule qui la laissa muette. Van Horst la rassura. Il ne lui arriverait rien, strictement rien de pénible, et cette fois encore, il ne l'inviterait qu'à songer à des gens qu'elle aimait. Et si cela se passait bien, alors la semaine prochaine, peut-être essaierait-il de lui faire revivre les minutes qui avaient précédé sa crise de cécité pour en chercher la cause. Mona se sentait prête. Elle se glissa dans le fauteuil en cuir mou, comme un cosmonaute dans sa fusée. Van Horst l'hypnotisa par la simple pression de 3 doigts sur le front et les mots suivants. Les paupières lourdes et collées. Elle eut cette fois l'impression de se mouvoir à une vitesse extraordinaire dans un tunnel dont les parois étaient faites d'un défilement de zones grises et blanches. Elle s'y sentait enivrée et complètement protégée. La voix du docteur était bien là, lui enjoignant de penser aux choses les plus enveloppantes qui soient. Mais elle résonnait de loin, depuis un point minuscule qu'elle n'apercevait qu'à peine à l'extrémité du fabuleux corridor qu'elle traversait à toute allure. Les mots de Van Horst finirent par s'éteindre, et un concert de sensations prit le dessus, d'abord abstraite, puis de plus en plus concrète. La psyché de Mona sortit du tunnel et baignait désormais dans un sentiment de bonheur absolu, auprès de Dadé, papa et maman. Elle les voyait, les entendait parler, humait même les effluves d'eau de Cologne de son grand-père. Mais il y avait aussi, parmi ces silhouettes, une nuée mouvante et impalpable. Et cette nuée, la psyché de Mona sentait qu'il ne dépendait que d'elle, d'aller la saisir ou non. Surtout, elle sentait là comme un gigantesque mystère, où se cristallisait le plus beau et le plus malheureux de tous les secrets qu'ait jamais porté le monde. Cela sentait la vie dans tous ses aspects les plus nobles et les plus tragiques. Cela sentait la vie parce que cela frôlait la mort. Vaillante, la psyché de Mona se résolut à approcher. Et cette psyché, qui s'apprêtait à quitter le continent de l'enfance, eut alors le sentiment de régresser, de revenir à un âge de la prime jeunesse, de remonter le temps jusqu'au flou insondable des tout premiers âges en amont de la conscience. Alors la nuée prit lentement forme, comme s'agrège avec timidité une poignée de pièces d'un puzzle. Colette était présente à l'esprit de Mona. Elle était au chevet de sa petite fille, avec son éternel chignon d'argent, son front vainqueur, ses yeux comme des rayons de lune et sa bouche invariablement soutenue par la griffe d'un sourire. Elle caressait la main de Mona et lui disait avec une bienveillance posée « Au revoir, ma chérie. Je t'aime. » Les doigts de Van Horst claquèrent.
« Mamie, mamie !»
soupira par 2 fois l'enfant. Ce fut plus fort qu'elle. Arrivée aux abords du musée d'Orsay, Mona épia chaque badaud, à la recherche des jeunes gens qui les avaient pris en photo, elle et son grand-père, la semaine passée. Elle saisissait les visages avec la vélocité d'un chat, les identifiait tous, et il ne lui fallut que quelques secondes pour constater que le duo ne flânait pas sur l'esplanade. Pourquoi l'eût-il donc fait, d'ailleurs? Cela n'avait pas grand sens de les imaginer revenir là. Une fois à l'intérieur du bâtiment, Henri clama avec bonheur qu'aujourd'hui, comme promis 4 semaines auparavant devant le tableau de Fantin, ils iraient rendre hommage à Manet. La petite acquiesça distraitement, et poursuivit sans renoncer son improbable quête. Partout, son regard s'élançait et décryptait la foule des visiteurs. Tête après tête, nuque après nuque, à droite, à gauche, en amont, en aval et dans son dos. Or, dans son dos, justement, cheminait une surprise.
« Ah, Daddy !»
octa-t-elle soudain.
« Incroyable ! Regarde !»
Une dame, à peine une dizaine de mètres derrière eux, paraissait suivre leur sillon. C'était la dame au châle vert, qu'elle portait encore, qu'ils avaient croisée au Louvre, devant le concert champêtre de Titien, puis le môle de Canaletto. Henri haussa les épaules, car déjà, ils arrivaient devant une toute petite toile perdue sur un grand mur. On aurait pu réduire la description de l'œuvre à une unique asperge sur une table. Ce n'était pas faux, mais cela ne disait rien de la particularité du cadrage sans horizon ni du traitement dynamique frais sur frais. C'était une vue au plus près du plateau faite d'un blanc cassé tendant au gris fusain. Il était parcouru de quelques touches entraînées horizontales ou subtilement obliques, tout à fait visibles, une vingtaine environ, auxquelles il fallait ajouter, dans l'angle supérieur droit, la signature en forme de M. Placée dans la partie inférieure du tableau et le traversant dans la largeur, l'asperge s'étalait en suivant une diagonale qui descendait très légèrement de la gauche vers la droite. Tandis qu'en dépassait au rebord de la table une courte partie de la queue blanche, sa tête violacée rebiquait à peine de l'autre côté, bien calée à l'intérieur du plateau. L'arête de celle-ci traversait le premier plan en décrivant une diagonale ascensionnelle d'environ 10 degrés qui, depuis le coin inférieur gauche et sur les 17 cm que mesuraient les côtés verticaux, venait s'interrompre à peu près 5 cm au-dessus de la base du cadre. Cela laissait deviner, en brun, la face externe du châssis, contrepoint sombre à l'ensemble, lequel déroulait en somme un camailleux d'ivoire.
« Dis donc, Dadé !»
lança Mona après avoir regardé le tableau 7 minutes. « On s'était dit que Manet était un rebelle, et tu m'emmènes voir juste un légume. Et en plus, les asperges, ça me dégoûte. » Devant une si modeste chose, je reconnais qu'on a du mal à imaginer Manet en train de déclarer qu'il livrait une guerre au couteau avec son époque. Ce fut pourtant le cas. Et je vais te raconter. Ce garçon, né en 1832, issu d'un milieu social huppé, embrassa une carrière d'artiste, après avoir voulu s'engager dans la marine. Et tu t'en souviens, il connut ses premiers déboires au salon quand, en 1859, il présenta son buveur d'absinthe que rejeta le jury.
Sauf de la croix.
Sauf de la croix, bravo. Eh bien, ce buveur d'absinthe lui valut de surcroît de se brouiller avec son professeur, Thomas Couture. 4 ans plus tard, la route de Manet est encore barrée lorsqu'il soumet un déjeuner sur l'herbe avec une femme nue en pleine nature pique-niquant avec des hommes habillés. L'œuvre est présentée dans un lieu à part, dit le Salon des Refusés. Et le public se presse pour injurier la toile, l'écorcher à coups de canne. Il est, dans la foulée, accusé de faire une peinture obscène, vulgaire, en particulier avec son Olympia montrant une prostituée en 1865. Le ministre de l'Intérieur le censure même en 1869 parce qu'il avait réalisé une gravure dénonçant la politique étrangère de l'empereur Napoléon III. Et ce n'est pas tout. La guerre au couteau a également lieu avec ses alliés. Charles Baudelaire, qu'il apprécie pourtant, lui lance en guise de compliment qu'il est le premier dans la décrépitude de son art. Une autre fois, en 1870, Manet gifle son camarade Edmond Duranty pour une simple querelle esthétique. Les deux hommes prennent l'épée pour régler leurs différends en duel. Le peintre blesse son rival et se réconcilie avec lui autour d'une chopine de bière. De même, il se fâcha avec Whistler, entretenait un rapport distant avec Courbet et n'exposa jamais avec les artistes dont il était pourtant le père spirituel, les impressionnistes. Impressionniste. Le mot résonnait familièrement aux oreilles de Mona. Mais son grand-père lui demanda de patienter pour des explications plus fournies. Cependant, afin de bien comprendre ce que cette notion recouvrait et comment Manet en avait été un fondateur sans jamais s'être joint au mouvement, Henri entreprit d'analyser la facture de l'asperge. Il s'enflammait devant Mona, qui ne voulait pas perdre aucun de ses mots, malgré leur horrible complexité. C'était, disait-il, comme si les moyens de la peinture, ceux avec quoi Manet travaillait donc, apparaissaient et se désignaient eux-mêmes tout autant qu'ils représentaient un légume isolé. Les reflets sur la tige désignaient la note claire du blanc de ses ruses qui accentuait la réflexion de la lumière. Par contraste, le châssis brun désignait la terre d'ombre, dont la couche s'avérait si fine qu'elle laissait poindre la trame de la toile. Enfin, dans les traînées horizontales d'un gris foncé courant sur le plateau, auquel répondaient les vaguelettes de la signature, on voyait la course fragmentée du pinceau en poil de martre. Mona fit d'elle-même le rapprochement entre cette asperge et les morceaux d'agneau de Goya observés au Louvre. Elle se rappelait l'expression « nature morte » au sujet du peintre espagnol. Il avança timidement pour qualifier la petite huile de Manet. Henri la félicita. Elle se rappelait aussi que c'était un genre considéré avec réserve, voire un certain mépris. « En effet, » acquiesça Henri. « Mais au XIXe siècle, » précisa-t-il de sa voix passionnée, « la nature morte prend une importance inédite. Voici pourquoi. Tout au long de ce siècle, une nouvelle clientèle d'amateurs de peinture apparaît. L'accès à l'art se démocratise. Cette clientèle de bourgeois dispose d'argent et d'espace, mais n'a évidemment pas les moyens colossaux des princes, de l'État, de l'Église. Sa demande est donc différente. Plutôt que de viser de grandes scènes qui mettent en image les guerres ou les dieux, elle porte sur des choses modestes et accessibles matériellement, les portraits serrés, les paysages, les événements du quotidien, et enfin, les natures mortes. « Mais alors, Dadé, il y a quelqu'un qui a demandé au peintre de lui faire juste une asperge ?»« Eh bien, pas tout à fait. L'histoire est plus amusante que cela. Un grand collectionneur de l'époque, du nom de Charles Effroussy, avait commandé à Manet une peinture figurant une botte d'asperge entière. L'artiste en exigea 800 francs. Cela semble dérisoire en comparaison des millions que vaudrait une seule des toiles de Manet aujourd'hui. Mais c'était loin d'être négligeable. Le salaire quotidien moyen à cette époque était d'environ 5 francs. Quoi qu'il en soit, Charles Effroussy fut si heureux du tableau, qui est aujourd'hui conservé en Allemagne, qu'il expédia 1000 francs à Manet. Et ce dernier, par un trait d'esprit, d'ingéniosité et de générosité, figura spécialement sur une toile à part cette asperge supplémentaire pour l'offrir au collectionneur en l'accompagnant du mot suivant « Il en manquait une à votre botte ». Manet nous exhorte à voir qu'il y a au fond très peu à voir. C'est une simple asperge ou un banal fragment de table, et c'est un petit accès de générosité qui l'a poussé à en tirer une peinture et à l'offrir. Mais ce que nous dit ce tableau, c'est que le presque rien fait tout le charme de la vie. Il suffit qu'il y ait ce presque rien pour que l'existence s'illumine. Sans ces presque rien qui nous échappent, les choses ne seraient que ce qu'elles sont. Il a suffi d'un je ne sais quoi, et elles deviennent soudain délicieuses. Less is more, disent les Anglais, en un parfait raccourci. Tu dis qu'il a fallu presque rien, mais il a fallu quand même les coups de pinceau de Manet. Oui, on pourrait quasiment les dénombrer. J'en vois environ une quarantaine pour la tête de l'asperge et un peu plus pour le reste de la tige, mais plus allongée. En tout cas, 100 coups de pinceau pour tout le légume, c'est un grand maximum, Dadé.
Tu les as donc comptés?
Bah, disons que c'est comme pour les corbeaux de Friedrich. Je les vois.
Henri n'était pas tout à fait certain de comprendre ce que voulait dire Mona par là.
Mais il avait observé sa capacité de perception hors norme, un pouvoir de discernement analytique presque magique. Certains enfants ont cette faculté d'écoute musicale rarissime, qu'on appelle oreille absolue. Mona, pour sa part, semblait jouir d'une sorte d'œil absolu. Néanmoins, Henri ne voulait surtout pas commettre l'erreur fatale de la conforter dans la position du phénomène ou de la gamine surdouée pour au moins trois raisons.
D'abord, il n'avait en la matière aucune certitude. Ensuite, c'eût été risqué de contrarier la candeur de la petite. Enfin, à chaque seconde qu'il passait avec elle, il savait que planait l'épouvantable menace de la cécité. Quelle cruauté ce serait que de lui laisser espérer posséder un œil absolu si, d'aventure, celui-ci devait un jour ou l'autre s'éteindre à nouveau.
« Moi, ce que je veux la prochaine fois, c'est que tu m'expliques l'impressionnisme, Dadé. »«
Eh bien, soit, nous irons découvrir Monet. »«
Monet, » répéta l'enfant. « Attention, ça peut se confondre avec Manet ou Mona. »
« Ne t'en fais pas, je saurai me repérer. Nous nous retrouverons sur le quai d'une gare, celle de Saint-Lazare. » Tandis qu'il se détournait de l'asperge pour gagner la sortie du musée, Henri et Mona se heurtèrent à une femme qui s'était dressée dans leur dos. Elle leur fit l'effet d'une apparition surnaturelle. C'était la dame au châle vert.
« Je suis navré, mais il vous sera impossible de vous rendre devant la gare Saint-Lazare de Monet. » dit-elle, d'une voix un peu chuintante, claire, élégante.
« Comment donc, madame ?» s'agaça Henri. « Et de quoi vous mêlez-vous »
« Pardonnez mon intervention, monsieur, et laissez-moi me présenter. » Elle lui tendit une carte de visite au nom d'Hélène Stein. « Je suis conservatrice ici, au musée d'Orsay. »
« Une conservatrice ?» ajouta-t-elle en s'adressant à Mona.
« C'est une personne dont le métier consiste à veiller sur les œuvres, et qui essaie de les faire connaître en organisant des expositions.
« Mais madame !»
s'exclama l'enfant avec un grand sourire.
« Je me rappelle, avec Dadé, on vous a vu deux fois au Louvre. »
« Oui, c'est vrai, car je m'y rends régulièrement pour mon travail. Je vous ai donc entendu à plusieurs reprises, toi et ton grand-père, sans que vous ne vous en rendiez compte. D'abord au Louvre, en effet, puis ici. Comprenez, j'ai 65 ans, et jamais, je vous assure, je n'aurais pu espérer que mon métier prenne enfin autant de sens. Jamais il ne m'a été donné de croiser deux visiteurs aussi fantastiques dans les allées d'un musée. C'est la récompense de toute une carrière de vous observer.
Chère Mona, elle connaissait donc le prénom de l'enfant.
Cher monsieur, je suis désolé de cette intrusion, mais vos conversations devant des œuvres furent, avant mon départ à la retraite, le plus beau cadeau que je pouvais espérer m'offrir.
« Eh bien, » dit Henri d'un ton charmeur, « vous êtes toutes pardonnées. Vos compliments me touchent.
En revanche, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas que nous voyions la gare Saint-Lazare de Monet.
Le fait est que vous ne la trouverez pas à nos cimaises, car nous en refaisons le cadre actuellement. Elle est donc dans nos réserves.
« Diable !» regretta Henri. Un de mes tableaux favoris.
C'est quoi des réserves, Dadé ?
Demanda Mona.
Son grand-père voulut alors lui décrire les allures de salle au trésor qu'avaient ces lieux où l'on gardait, restaurait, bichonnait dans le secret de quelques sous-sols inconnus du public, des œuvres par milliers.
Il n'en eut pas le temps. La conservatrice répondit pour lui. Eh bien, Mona, pour le savoir, « le mieux, c'est que nous nous y rendions ensemble la semaine prochaine. Aussi pourrez-vous contempler votre Monet. »